Vous êtes bien installé? Voilà, les thèmes sont choisis un petit peu en lien avec ce qu'on entend de votre part dans les entretiens. Et naturellement, il y a cette progression de la découverte de certaines qualités. Il y a aussi parfois la progression de certaines difficultés. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et donc, très naturellement, il y a par moments, et quelqu'un me partageait ça en me disant que ben, quand j'ai lu une phrase, une formulation, que je sois heureuse, que je sois bien et que rien ne va, ça ne correspond pas forcément à ce qui est du fait du besoin. En relation avec ce qui se passe. Donc naturellement, il y a une disposition d'esprit qui peut tendre un tout petit peu plus en lien avec la réalité du moment. On comprend bien que cette intention, ce soin apporté à ce qui se passe, on l'a dit et redit, se situe toujours à ce qui se passe au présent, pas dans un autre temps. Et donc, il y a cette aptitude de pouvoir découvrir la qualité de la présence bienveillante et que naturellement, de façon tout à fait spontanée et naturelle, cette qualité de la bienveillance pourra s'appeler, s'intituler la compassion. Donc, c'est pas qu'on découvre quelque chose de tout à fait nouveau et que tout à coup on doit tout chambouler dans notre rapport à la méditation, notre rapport à nous-mêmes. Comme je l'ai dit, il y a un prisme qui naturellement a plusieurs facettes. Ou si vous voulez prendre cette main que je vous montre, la mienne, et naturellement là, il y a différentes colorations, différentes pigmentation de ma peau, hein, cette main. Et donc vraiment, metta en est une et karuna, qui est la compassion, en est une autre. L'équanimité en est une autre. La présence, la pleine conscience en est une autre. Donc vraiment, ceci peut représenter l'esprit et tous ces états mentaux peuvent naturellement se refléter dans cet esprit, le mien et le vôtre. Donc ça, c'est un aspect important et c'est exactement ce dont j'aimerais parler aujourd'hui dans cette perspective de vipassana. Il y a naturellement aussi cette dimension de pouvoir entrer en relation avec ce qui peut s'apparenter de douloureux ou d'insatisfaisant et en ayant comme soutien la qualité de la compassion. Donc il s'agit ici d'une définition. Je peux tout à fait l'employer. Et puis il y a peut-être d'autres types de définitions, mais une qui convient bien, c'est le soin apporté pour soulager la souffrance. Soin apporté pour aller dans le sens de la diminution, voire de la cessation de la souffrance. Metta est très important ici. Donc il y a cette base fondamentale qu'on a bien cultivée dans cette retraite, cette qualité de soin, de douceur, et que c'est ce qu'on va nommer comme étant la compassion lorsqu'on est en présence de difficultés. Ce terme comme on a employé quelques termes pali, je vais aussi le dire en pali. Le terme est karuna et le terme complet est anukampa karuna. Ce terme de anukampa signifie attendri, assoupli. Donc il s'agit vraiment d'une qualité où on peut sentir la tendresse, donc la qualité de la présence de la douceur ou de la gentillesse. Et la manière dont il est décrit, c'est l'esprit ou le cœur qui frétille, qui peut trembler aussi en présence de ce qui est douloureux. On peut aussi employer le terme de frémissement. Et donc il y a là une dimension, une disposition naturelle d'être concerné, d'être touché, touché par la douleur, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle d'autres êtres. Lorsqu'on se permet de ressentir cette bonté fondamentale, il y a naturellement plus de sensibilité, dans le sens qu'on est plus proche de ce qui se passe. Et donc, très naturellement, cette sensibilité va aussi émerger en présence de ce qui n'est pas plaisant. C'est tellement normal. Et en même temps, nous sommes au contact des sens, nous sommes reliés de manière beaucoup plus intime qu'à l'habitude. Donc nous allons ressentir les aspects agréables comme les aspects désagréables de manière plus forte. Et naturellement, ceci demande une certaine qualité de soin dans la manière dont on s'accompagne. Je crois que c'est très important de pouvoir considérer ceci. La manière d'entrer en relation avec ce qui peut émerger. Au nord de l'Inde, probablement dans une région qui fait maintenant partie de l'Afghanistan, a été composé un sutra très important qui s'intitule le Sutra du Lotus. C'est un texte employé dans la tradition du grand véhicule et dans une certaine manière, on peut dire que ce texte célèbre le cœur libéré ou l'esprit libéré. Et dans ce texte, il y a l'expression d'une compassion illimitée et puissante. Il y a vraiment cet aspect de la compassion qui peut pénétrer tous les coins de l'univers. Et donc, naturellement, lorsque le Sutra du Lotus est récité, eh bien, il y a aussi la représentation de figures. Et dans le monde tibétain, c'est Avalokiteshvara qui va représenter cette figure, donc si vous voulez, la personnification de la compassion. Et on voit beaucoup de formes différentes. Des fois, elle a 1000 bras parce qu'elle s'active tellement que qu'il en vaut 1000, vu qu'il y a beaucoup de souffrance dans tous les recoins du monde. Et puis lorsque ce texte est entré en Chine, eh bien, il y a aussi eu l'émergence de la personnification de la compassion sous la forme féminine. Et donc, vous pouvez bien imaginer que moi, ça me plaît beaucoup. C'était pas du tout le cas, en tout cas pas que je sache. Et donc on appelle cette divinité Kuan Yin et Ça implique et ça signifie celle qui entend les pleurs du monde. Celle qui entend les pleurs du monde. Donc au cours des siècles, Kuan Yin a été représentée sous toute une variété de formes. Elle est parfois extrêmement sereine, avec ses bras étendus, les yeux ouverts et prête à agir dans le monde. Elle a une jambe prête à aller de l'avant et l'autre pose tout tranquillement. D'autres fois, elle tient une baguette de saule, une branche de saule qui représente la résilience. Cette extraordinaire qualité de pouvoir être résilient. Donc cette branche de saule peut plier quels que soient les temps, la tempête, les vents. Comme je viens de le dire, dans la représentation où elle a un millier de bras et de mains, il y a naturellement dans chaque main et chaque paume, il y a un œil ouvert au centre qui symbolise la conscience de la douleur. La conscience de la douleur. Mais aussi la conscience de pouvoir répondre. La conscience de pouvoir répondre aux besoins. Donc elle est une protectrice. Avalokiteshvara, c'est aussi le protecteur des voyageurs. Donc, si vous allez voyager, vous pouvez tranquillement vous aider de la protection de cette divinité. Et par moments, sous sa forme masculine, elle prend parfois un aspect guerrier. Elle est armée. Et il y a naturellement cette dimension de compassion féroce. Ce qui veut dire qu'il y a, il y a et ça je trouve que c'est très intéressant parce que ça implique qu'il ne s'agit pas uniquement de l'aspect réceptif et puis tendre, mais aussi de l'aspect qui peut être extrêmement centré, demeurer dans son axe et agir de façon extrêmement forte, avec force, avec puissance, on va dire, lorsqu'il y a un besoin. Donc là, il y a un engagement à déraciner les causes de la souffrance. Donc autant protecteur que gardien, ou protectrice que gardienne, cette figure est engagée dans la vie. Donc on dit que la compassion, c'est une qualité, si vous voulez, metta, c'est l'attitude, c'est ce qu'il y a dans notre esprit. Et lorsqu'il y a une action, c'est la compassion qui va agir, c'est la compassion en action. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important, c'est que il y a naturellement cette dimension de pouvoir être en présence, mais aussi avec une aspiration, on va dire, c'est ça le mot le plus juste, de mettre fin à la souffrance. Puisque, comme on a pu le voir à un moment donné ou à un autre dans les enseignements, c'est que il est possible de faire cesser cette souffrance. Donc, la compassion est éclairée par la sagesse et la sagesse éclaire la compassion. Il y a vraiment ces deux dimensions dans l'enseignement, représentées par les deux ailes. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Et donc, il y a cette extraordinaire possibilité que ces deux dimensions s'allient dans le sutra de Vimalakirti. Et la sagesse sans compassion est contrainte. La compassion sans sagesse est contrainte. Donc on a vraiment, je trouve absolument, c'est extraordinaire qu'on puisse ici découvrir un petit peu, voir au fil des jours et au fil de nos méditations, de nos journées, les différentes colorations et combien c'est aidant de pouvoir les ressentir, pas seulement les connaître intellectuellement, mais les vivre de l'espace de notre présence. Donc, c'est assez simple, hein. Par moments, il y a des douleurs physiques qui sont assez intenses. À d'autres moments, ça peut être des émotions. Et que lorsque ces expériences sont présentes, eh bien, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, la tendance, c'est première relation, c'est on s'en va. On s'en va, on fuit, vous êtes d'accord, hein? Comme tout type d'être humain qui n'a pas cheminé. Et moi, je me rappelle très bien quand j'avais commencé. J'avais bien compris que c'était pour mettre fin à la souffrance. J'avais lu un texte et un livre, puis je me suis dit, ah, oh, c'est génial, enfin, dans le sens de moins de souffrance. Et puis, je me souviens tellement bien où j'étais assise dans la salle quand j'ai entendu le maître dire. Non, non, mais comme dirait Charles, la solution est dans le problème. C'est aller à la rencontre plutôt que s'en éloigner. Ah, mais c'était un choc, hein. C'était un choc parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Est-ce que je veux vraiment aller dans ce sens-là? Et c'est incroyable combien c'est important cette question, parce que je crois que nous tous ici, nous pouvons à un moment donné nous poser la question, et en même temps, le fait qu'il y ait beaucoup de clarté, de discernement, de compréhension dans le chemin, et que même si c'est pas en moi, au moment où j'ai entendu ça, ben, ça a donné un encouragement pour rester, en tout cas, entendre que c'est à l'écoute de ce qui se passe plutôt que dans la fuite ou dans l'évitement qu'on peut trouver la fin de la souffrance. Mais c'est un cheminement. Donc, on se laisse traverser par les douleurs. Se laisser traverser par les émotions, plutôt que d'avoir cet aspect, et je crois que Monica en a parlé un tout petit peu ce matin, la tristesse est là, elle est présente, elle est ressentie, mais la façon de formuler peut immensément nous aider. Dans le sens, c'est la conscience qui prend conscience d'une tristesse ou d'une douleur, plutôt que d'y ajouter un c'est moi, je, qui souffre, qui n'en peut plus, qui veut partir. Donc, ça contraint et ça crispe. Donc, tout ceci est le registre de l'identification qu'on va bien sûr explorer à d'autres moments aussi. Mais le fait de prendre ceci de façon personnelle, c'est moi qui suis en possession de cette souffrance et pourquoi à moi et encore moi, eh bien, est absolument important d'éclairer parce que c'est là qu'on a la saisie. C'est dans cet aspect de se perdre dans les jugements. Les jugements, des fois c'est des commentaires, hein, mais c'est là qu'on perd pied très souvent. Donc, à considérer. Il y a un sutra, et c'est évident que ce sutra a trait totalement à ce qu'on décrit ici. Il s'appelle le Salata Sutta. Et c'est un sutra que vous connaissez bien, en tout cas certaines d'entre vous. C'est le sutra des deux flèches. Et qui a vraiment trait à ce que je suis en train de décrire. Le Bouddha, à nouveau, dans ce sutra, se trouve dans un lieu et il a des disciples qui sont non instruits. Donc, des disciples non instruits, c'est qu'ils n'ont pas encore été entraînés au chemin et qui ne connaissent pas l'enseignement des quatre nobles vérités. Donc, on voit bien que là, il parle à des personnes qui n'ont pas encore été en présence de la compréhension de l'origine de la souffrance et la manière de pouvoir cheminer pour y mettre fin. Donc, il s'adresse à un de ses disciples et le Bouddha demande à cette personne: si une personne est transpercée par une flèche, est-ce douloureux? Alors, bien sûr que la réponse est oui. Et puis, le Bouddha demande alors: si cette personne est transpercée par une deuxième flèche, est-ce encore plus douloureux? Qu'est-ce que vous diriez? Oui. Donc, il y a naturellement là une dimension où le Bouddha va enseigner absolument tout son enseignement sur la relation à la douleur. Donc cette première flèche, c'est la douleur de l'existence. La maladie, le mal de dents, le mal de dos, tout ce qu'on peut rencontrer dans notre existence. Et il dit, il explique, le Bouddha, dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler la première flèche. Donc il arrive parfois des maladies, il y a la mort, enfin voilà, la fin de l'existence. Et il ajoute: la deuxième flèche est la réaction à la première. Cette flèche-ci, on peut naturellement la voir comme facultative. Comprenez ceci, hein? Donc cette deuxième flèche, c'est tout notre rapport à ce qui se passe. Et réellement, la méditation est très intéressante dans le sens que elle va éclairer, et c'est là qu'elle se situe vraiment, dans mon rapport à l'expérience. Et ceci, on le dit sans cesse. Donc, tant que nous sommes vivants, nous allons naturellement éprouver la douleur. Maintenant, la souffrance ajoutée est quelque chose de facultatif. Et c'est là qu'on se rend compte. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment une possibilité, quoi. Il y a un potentiel immense, bien sûr, avec le temps, avec le cheminement. Mais qu'est-ce que c'est que cette deuxième flèche? Eh bien, c'est toutes nos manières, justement, de juger, de condamner, de nier, de blâmer. Cette manière, cette couche ajoutée au niveau, ben, très certainement, de l'aversion. Donc, vous voyez bien que cette qualité de compassion n'apparaît pas du tout dans un registre abstrait. C'est en situation. Là, quand il a fait chaud, ou que même maintenant, vous pouvez peut-être avoir chaud. Et puis, il y a effectivement un peu de sueur sur le front. On a peut-être envie d'un peu plus de fraîcheur. Ben, les conditions sont ce qu'elles sont, hein. C'est peut-être inconfortable. Maintenant, si on ne cesse de dire... C'est inconfortable, j'aimerais qu'il fasse moins chaud, que les conditions sont comme ça, ben ça, forcément que ça ne va pas aider. Hein. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est cette deuxième flèche. Et du coup, c'est toutes ces complications ajoutées. Comment on en ajoute des complications par rapport à pas être en accueil de... Ben, les conditions sont ce qu'elles sont. Donc on se sent très bien que ça, c'est en situation. Ce n'est pas abstrait, ah oui, la compassion... un idéal, pas du tout, c'est à chaque instant. Je trouve que c'est extraordinaire, en tout cas pour ma part, je dois dire, pour avoir exploré Metta avec beaucoup d'insistance et de délicatesse, de se souhaiter du bien, il y a tout un autre versant qui fait qu'on peut parce que par moments les situations ne sont pas si plaisantes que ça, élargir la perspective et se servir de la compassion. S'aider de la compassion. Donc c'est la même, si vous voulez, disposition, c'est se souhaiter du soin, de pouvoir prendre soin de soi, d'être en accueil de cette difficulté ou en accueil de la douleur. La phrase légèrement différente, dans le sens que plutôt que de se souhaiter quelque chose d'agréable, d'être bien, d'être en paix, eh bien là, la cible, elle est sur la douleur. Ce qui veut dire qu'on va naturellement avoir une phrase qui va dans le sens puis-je ou que je puisse accueillir cette douleur avec metta, avec soin. Que je puisse quelque part m'accompagner, prendre soin de moi-même, avoir une disposition d'esprit qui va dans le sens de l'ouverture, plutôt que de nourrir la réactivité. Donc ça change beaucoup la relation. Et plus on devient familier avec la réactivité, c'est vraiment là que on est, hein, on découvre la réactivité en étant conscient qu'il y a de la douleur. Donc c'est peut-être parfois le lieu de la réactivité, que le lieu du problème, c'est la réactivité. C'est justement l'aversion. C'est j'ai pas envie, je veux pas. C'est pas ici que j'ai envie d'être ou que je juge une situation qui est à l'extérieur de moi-même. S'il y a un rapport un peu compliqué ou le sentiment que il y a de la tension dans le sens de se tendre, de se crisper, eh bien c'est peut-être souvent là qu'on commence. Et la deuxième flèche, elle est souvent là, dans le lieu de la réactivité, dans le lieu de la crispation, dans le lieu de ça va pas comme je veux. Et souvent, ça va pas comme on veut. Donc d'apporter un petit peu de cet aspect de dimension de compassion, non pas pour changer l'expérience, mais au contraire pour accueillir. Donc vous voyez le lien avec la patience dont j'ai parlé il y a quelques jours, de pouvoir consentir, donner de l'espace. C'est à nouveau un processus. Ce n'est pas un état plutôt qu'un autre, c'est vraiment un soin qui fait qu'on s'accompagne dans ce processus de délivrance. La méditation, souvent, elle nous donne cette motivation. Et c'est assez extraordinaire parce que ce qui se passe, c'est qu'on perçoit que tout au long de ce chemin, justement, là où il y a du figement, eh bien, il peut y avoir un tout petit peu de dénouement. Que ça se dénoue. Charles a parlé des chaînons, hein, et qu'il y a quelque part un dénouement, le fait d'être décrispé. Et donc, de constater ceci, qu'il y a un effet, qu'il y a un impact. Et du coup, ça nous donne la motivation nécessaire pour alimenter et vraiment nous aider à aller dans le sens de la liberté. Encore ce matin, je discutais avec une personne et puis c'est ouais, mais la manière d'être avec, bah, peut-être fait que ça tourne un peu en rond, donc ça stagne. Ce qui implique que, y a une curiosité à avoir. Je dis, ah ouais, bah, je reconnais, mais en fait, ça n'a pas bougé d'un iota. Et puis, on explorait ça ensemble, et puis il se disait, mais tiens, mais peut-être que. Il y a une manière, un angle de voir la chose qui fait que peut-être que dessous, il y a l'envie quand même de s'en débarrasser, qui fait qu'il y a de l'aversion. Alors, c'est souvent assez subtil ce point-là. Hein. Sans que ce soit vraiment visible, oui, mais je veux bien être avec, je veux bien être avec cette douleur. Et en même temps. Ouais, ça coince. Bon, 10 minutes, c'est bon, mais alors là, franchement, ça suffit. Bah, remarquez s'il n'y a véritablement pas là, dans cet instant, une position qui fait que c'est pas vraiment OK de sentir ça, que vraiment il y a une envie d'une autre expérience. C'est de la réactivité, c'est de la résistance. Même si elle est toute petite, eh bien, c'est là le lieu de la méditation. C'est là qu'on va commencer à découvrir. Ah oui, bah peut-être qu'effectivement, j'ai pas envie. Mais c'est OK de ne pas avoir envie. C'est OK de pouvoir respecter cet aspect de difficulté aussi dans ce lieu. Et non pas croire qu'il faille absolument aller dans le sens de il faudrait que j'accepte. Vous comprenez ceci? Ça, c'est subtil, hein? Et là, la compassion aide immensément. C'est exactement là que cet aspect, cette dimension de compassion va nous aider à pouvoir, comme metta, et c'est metta si vous voulez, être un tout petit peu plus dans la disponibilité, la disposition d'accueillir, de dire oui plutôt que non. Donc cette tendance à vouloir tourner le dos, aussi bien en contact de la douleur physique ou mentale, est tout à fait courante. C'est totalement normal. Ce qui nous est demandé est quelque chose d'assez incroyable. On était en Birmanie, quelqu'un avait vraiment une grande douleur, et puis je ne sais plus où était cette douleur. Là, vraiment, le maître qu'on avait a dit, mais et si tu prenais un médicament pour soulager cette douleur? Et là, le yogi, enfin, le méditant, hein, comme on dit yogi, hein, celui ou celle qui fait du yoga, hein, on les appelle les gens, on les appelle les yogis, il a dit, non, 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 je veux vraiment vivre cette expérience. Wow. Et là, le maître a dit, ouais, jusqu'à un certain point, vois ce qui se passe, jusqu'à un certain point. Il y a aussi des aides en chemin. Ça ne sert à rien de forcer et de mettre dans une situation de plus grande difficulté. Et ce maître a justement donné l'enseignement des deux flèches. Donc le juste milieu, c'est l'enseignement du Bouddha, le juste milieu. On apprend quelque chose d'extrêmement important dans tout ce cheminement, c'est que quelque part, cette deuxième flèche, qui est la résistance, est plus douloureuse que la première. Donc la résistance la résistance, si vous voulez, à la douleur, augmente la douleur. Mais on est vraiment dans une disposition de pouvoir le comprendre à un moment donné. Donc la résistance, c'est normal. Simplement là, on fait du mieux qu'on peut, on s'accueille, on essaye d'être le plus aimable possible, d'y voir clair, d'être dans la mesure du possible moins confus, dans le sens de dire, tiens, mais qu'est-ce qui est là? Et la curiosité nous aide. Ça, c'est la dimension du discernement. Donc un processus très, très, très lent, qui demande beaucoup de patience, mais en même temps, une fois qu'on peut voir le chemin et qu'on peut le ressentir, qu'on le vit dans son être, dans sa chair quelque part, eh bien, on se fait moins attraper la prochaine fois. Et on se fait encore moins attraper. Alors maintenant, forcément, les circonstances, elles changent, hein. Mais la compassion va naturellement pouvoir être un tout petit peu plus stable et naturellement la pleine conscience aussi. Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire de Monsieur Aberdeen. C'est une histoire qui a été dite et qui a eu un grand impact en réalité à la BBC en 2012, donc ça date un peu, hein. Ce monsieur, en 2012, il avait 61 ans. Donc, je ne sais pas s'il est en vie, j'ai pas checké. Mais à 61 ans, au Bangladesh, ce monsieur Abedin, il pédale toute la journée car il est pédaleur, il est un rickshaw. Rickshaw, voilà. Rickshaw, c'est ces cyclistes hein, qui transportent des personnes. Donc, c'est un gros tricycle, très commun en Inde et puis dans tous ces pays de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il y a une banquette arrière et il est là toute la journée et en fait, il gagne l'équivalent de 4 euros par jour. Et il raconte. Donc, c'est lui qui prend la parole, là. Il dit, mon père est mort parce que nous ne pouvions pas l'emmener à l'hôpital, qui était une marche de 2 jours à partir de là. J'étais tellement en colère. Les gens ici pensent que parce que nous sommes pauvres, nous sommes impuissants. Je voulais prouver qu'ils ont tort. Monsieur Abedin partit pour la ville avec une seule chose en tête, construire un hôpital proche de son village. Il se promit de revenir seulement quand il aurait suffisamment d'argent pour commencer. Il a commencé à pédaler dans ce but et il a pédalé pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? 30 ans pour atteindre son but, mettant chaque jour de côté la moitié de ses gains. Le reste des gains était pour faire vivre sa famille. Eh bien, à l'âge de 60 ans, il avait enfin épargné 3 000 euros. De quoi commencer son projet. Donc, il revint au village, il quitte la ville et il essaye de réaliser son rêve, construire un hôpital. Au début, il réussit à trouver aucun médecin. Il ne me faisait pas confiance, dit-il. Il commença donc avec du personnel paramédical. Mais rapidement, les gens commencèrent à apprécier le travail incroyable qu'il accomplissait et de l'aide vint à lui. L'hôpital du village était bien actif et traita plusieurs centaines de patients par jour. L'hôpital est maintenu grâce aux contributions minimes payées par les patients. Et depuis, forcément, l'article dans la BBC, il y a eu beaucoup de dons qui sont arrivés. Et souvent anonymes, il dit, et qui ont commencé à affluer. Et donc, il a pu vraiment réaliser son rêve. Et une fois qu'il y a eu des médecins dans son hôpital, il a dit, j'avais quelques années plus tard, j'avais un petit peu regardé s'il y avait une suite, eh bien, il pédalait toujours. Il a continué à être rickshaw, voilà, infatigablement, prenant des passagers. Donc ceci implique réellement que c'est quelque part la douleur, la mort de son père, puis la colère, l'injustice. Donc cette compassion en action est quelque chose qui va émerger et qui fait qu'on va naturellement nourrir un projet, il y a une motivation immensément importante, mais vous vous rendez compte de la qualité de la patience? 30 ans. C'est juste assez incroyable. 30 ans pour récolter 3 000 euros et pour pouvoir réaliser ce rêve qui, je suis sûre, aujourd'hui est encore présent, je l'espère en tout cas, cet hôpital, pour le bien de beaucoup, beaucoup de malades. Donc il y a là cette qualité de la compassion en action. Il y a aussi cette extraordinaire qualité qui s'intitule l'équanimité. Cette qualité d'équanimité, qui est le quatrième des illimités, sous-tend chacune des autres qualités. l'équanimité sous ton metta pour que ça ne verse pas dans le sens de l'attachement. L'équanimité sous-tend la compassion pour que ça ne verse pas dans le sens de l'aversion. Et donc cette qualité d'équanimité, c'est quelque chose qui fait que on a cette perspective plus vaste en réalité pour pouvoir considérer les événements d'un point de vue qu'il existe dans toute existence des hauts et des bas, des gains et des pertes, du plaisir et de la douleur. Et donc cette équanimité, c'est quelque chose qu'on peut aussi nourrir, vraiment s'en imprégner et tranquillement avoir à l'esprit, là aussi, il est possible de considérer que les conditions sont ce qu'elles sont au moment où elles émergent. Et c'est ça que ça implique, c'est qu'on est en accueil, en ouverture, en acceptation des conditions comme elles sont. Donc ça va vraiment aider dans le sens de ce que je viens de décrire, là il y a un petit moment, dans le sens de donner du temps au temps, de pouvoir être en mesure d'accepter, c'est une acceptation assez radicale d'ailleurs, de pouvoir dire, ben maintenant c'est comme ça. Mais maintenant c'est comme ça, et dans un sens de ne pas avoir de l'indifférence. L'indifférence, c'est quelque part l'état mental très proche, et du coup il y a une déconnexion. C'est au contraire cette qualité d'ouverture pour pouvoir laisser les choses être comme elles sont. Vivre les hauts et les bas, vivre les difficultés, mais avec une intention, quelque part, vraiment un soin apporté pour aller dans le sens de l'équilibre. Donc on peut nourrir là, c'est exactement ce que je disais ce matin à cette personne, c'est on peut aussi vérifier par moment cette disposition intérieure d'aller dans le sens de l'équilibre, plutôt que de ressasser et de tourner en rond dans le déséquilibre. Donc cette équanimité, c'est absolument extraordinaire de pouvoir par moment l'appeler, dire c'est ok, c'est ainsi, mais c'est possible dans la réalité du présent de m'aider, de nourrir metta, de pouvoir choisir les conditions qui vont dans le sens de d'un mieux, plutôt que d'être constamment pris à vouloir autre chose. Donc c'est génial de pouvoir voir que l'équanimité va être en réalité de la non-réactivité. C'est vraiment ça à quoi ça aboutit. C'est une absence de réactivité, une absence de complications. Voilà l'enseignement de cet après-midi est pratiquement terminé. L'idée ici, c'est de pouvoir terminer avec la petite phrase de sagesse et d'enseignement de la part du Dalai Lama qui dit la paix ne signifie pas l'absence de conflits ou de difficultés. La paix, c'est résoudre les difficultés par des moyens pacifiques. Donc c'est véritablement ce qu'on fait ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Tant qu'on est en vie, tant ici ou ailleurs d'ailleurs, tant qu'on est sur cette terre, on voit bien. Je veux dire. Ça, c'est vraiment l'expérience humaine universelle. Donc, l'idée de faire quelque part côtoyer le rêve à la réalité dans ce monde, c'est quelque part qu'il va y avoir naturellement par moment des difficultés. Mais les moyens avec lesquels on peut se mettre en relation sont pacifiques. Et je crois que ça, c'est vraiment mais, oh, tellement touchant quelque part dans la perspective de la méditation. Et l'équanimité, c'est ça. C'est quelque part cette capacité de pouvoir aussi appeler la paix, faire face à une situation plus dans le calme que dans l'aversion qui naturellement va émerger, mais qui, on sent bien, augmente l'agitation, la douleur. Voilà, il y a encore une dernière citation que je vais donner qui est du Bouddha. Il dit: garde le cœur léger. Le chemin de la vérité de la souffrance ne doit pas nécessairement être morose. Lorsqu'il y a de la douleur, appelez la bonté et la compassion, appelez la sagesse pour rencontrer la douleur. Ces qualités ont un pouvoir guérissant. Donc c'est le Bouddha, donc vous voyez qu'il y a 2600 ans, hein. Ça veut vraiment dire que c'est inspirant, en tout cas, et ça donne confiance parce que c'est quelque part une disposition d'esprit qu'on peut nourrir et qui va, au fil des années, des siècles, nous aider. Et je suis sûre que ça va encore pouvoir être prouvé pendant encore bien des siècles. Par chance, que ces enseignements existent encore.